5, 4, 3, 2, 1, t'es top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
Bienvenue dans l'Auberge espagnole de ce 12 novembre 2013. Gilles Couget au micro, Bruno Bertrand aux manettes. On parlera du Zonta Club Marie de Montpellier, qui est l'antenne montpelliéraine d'une organisation mondiale qui mène une campagne contre la violence faite aux femmes. Le Zonta Club Montpellier Marie de Montpellier emprisonnera les trois grâce à des rubans orange. Ce sera ce samedi. Hélène Mandrou, maire de Montpellier, lancera symboliquement la libération des femmes statues ce samedi, donc place de la Comédie à 11h. Et puis on parlera aussi de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, événement national majeur sur le sujet du handicap qui se déroulera du 18 au 24 novembre 2013. Le moment de rappeler l'existence d'un livre de référence paru il y a tout juste un an et qui garde encore aujourd'hui toute son actualité. Entretien avec Valérie Tran, co-auteur de cet ouvrage. Côté culture, on aura une interview de Burning Jacks, un groupe de rock'n'roll, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, qui se produit ce soir sur la scène du Rockstore. Ludovic Deleu devait venir nous parler du leitmotiv de novembre que vous pouvez trouver à Divergence FM, bien évidemment, ainsi que dans plein d'endroits partout ailleurs. On en survolera quand même brièvement le sommaire. Et puis Gaspard Bébier-Valérian viendra nous donner un petit tour d'actu du collectif Oudé Aïs pour parler création numérique. Pour l'heure, un petit peu de musique.
Singing now. Do my battle in your loom, bingo. Bingo, more one now. Do be one now. Oh, you're the now, what it? They don't malab, they don't. Malambo moni ndemba tumba ni kwara mule maya se tumba singe singe na nguma tumba nyalo benge Afrika kwa ngangonya anaba wonje na kumba tibendolo na bato bese ulonge kumba bwem. Singe, singe na, ngumatumba nyalo bana, yomali kam. Wild and all, wing line. spending up my vocal.
Three Women, c'est Richard Bonnat sur les ondes de Divergence FM. Three Women, on n'aura pas trois femmes dans cette auberge espagnole, mais on en aura deux, à commencer par Marie-Laure Brouillard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la présidente du Zonta Club Montpellier, Marie de Montpellier. On est là pour parler de ce qui va se passer ce samedi 16 novembre, place de la Comédie. Mais peut-être démarrer par présenter qu'est-ce que c'est Zonta. C'est une association ici à Montpellier, mais c'est aussi, on va dire, on peut appeler ça une ONG internationale.
Voilà, Zonta est un club service international. 31 000 femmes représentent le Zonta dans le monde entier, dans un grand nombre de pays dans le monde entier, en Afrique, en Europe, sur tous les continents. Voilà. Et donc à Montpellier, il y a le Zonta Montpellier, Marie de Montpellier, 25 femmes qui sont toutes engagées professionnellement et dans leur vie de tous les jours dans cette action Zonta.
Voilà, contre la violence faite aux femmes, mais plus généralement aussi aux enfants, si j'ai bien comprendre sur le site.
C'est surtout les violences faites aux femmes, et du coup, on travaille énormément sur l'éducation, bien entendu. Et les violences, c'est l'accès à l'éducation pour toutes les femmes, l'accès à la santé pour toutes les femmes. Et voilà, donc nous avons une très belle action ce samedi, puisque autour du 25 novembre, ce sont les journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes. Et à Montpellier, nous avons choisi le samedi 16 novembre. Nous serons sur la place de la Comédie. Et la mairie nous soutient dans cette action en permettant d'enchaîner symboliquement les trois grâces avec des rubans orange. Voilà, nous avons choisi le orange puisque nous sommes membres consultatifs, à l'ONU Femmes. Et c'est la couleur qui a été retenue. Donc, elles seront entravées par des chaînes orange. Et Madame le maire sera présente à 11h pour libérer symboliquement, commencer la libération symbolique de ces femmes.
Voilà, de ces femmes statues, pour le coup. Voilà. Le Zonta, c'est l'histoire de cette organisation, ça remonte à quand ?
Ça a commencé un petit peu comme tous les clubs-services aux États-Unis au début du.
Alors on dit club-service, peut-être c'est pas très usité comme,
comme appellation. C'est vrai que
quelle différence avec une association, par exemple, à but non lucratif?
C'est-à-dire club-service parce que nous rendons des services. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous œuvrons comme tous ces clubs en faisant des lotos, des brocantes, des ventes diverses qui nous ramènent de l'argent. Il y a également nos cotisations et grâce à cet argent, nous allons pouvoir soutenir certaines associations. C'est-à-dire que nous ne sommes pas thérapeutes, nous ne sommes pas éducateurs, donc nous n'intervenons pas directement, mais nous choisissons donc des associations. Localement, nous soutenons par exemple une association qui s'appelle AVEC, qui fait du soutien scolaire. Mmh. Nous soutenons une association qui s'appelle Vivre Mieux, le Lymphodème. Donc il y a un gros problème qui touche beaucoup de femmes suite à un cancer du sein, notamment. Nous soutenons également sur ces deux années le foyer Elisabeth Buissonnade. Et cette action du 16 novembre sera vraiment entièrement reversée à ce foyer qui reçoit des femmes battues. Mmh. Nous payons entièrement un atelier d'écriture thérapeutique qui rend un énorme succès, façon de parler, auprès des femmes qui sont accueillies dans ce foyer. Et grâce à l'écriture, elles peuvent s'exprimer. Voilà, ce qui est très difficile à dire oralement. Là, nous sommes. Je suis vraiment très très contente de ce que nous pouvons faire là cette année au Zonta Club Marie de Montpellier. Parce que suite donc à cette manifestation qui aura lieu sur la place de la Comédie samedi 16 novembre, le musée Fabre à Montpellier, donc l'agglomération montpelliéraine, nous soutient également dans ce projet en nous ouvrant le musée. C'est-à-dire que si vous viendrez à 11h sur la Comédie, vous pourrez acheter un petit morceau de ce ruban orange pour 2 euros ou plus, hein, ça sera votre participation. Et avec ce ruban, vous pourrez rentrer au musée de 15h30 à 17h et nous vous expliquerons 6 tableaux donc, qui sont disposés au travers du musée qui représentent justement les violences faites aux femmes au cours des siècles. Et vous pourrez également accéder à une salle mise à notre disposition par le musée Fabre où les travaux de ces femmes qui sont dans ce centre seront exposés. Mmh. Donc, je suis vraiment très, très, très heureuse pour ces femmes qui ont subi et qui subissent des souffrances qui sont vraiment inscrites dans leur chair. Hein, et parce qu'elles seront exposées quand même pendant 2 heures au musée Fabre. Et je crois que c'est pour elles, pour l'estime de soi, c'est vraiment une grande victoire. Et j'espère que grâce à ce travail, elles pourront aller plus loin et justement se libérer de ces chaînes.
Alors on le voit, cet événement samedi, c'est un petit peu aussi une bonne occasion pour mettre un éclairage sur cette action que vous menez à l'année, dont on a compris qu'elle est quand même assez étendue, qu'elle couvre plusieurs domaines. Combien de bénévoles, combien de personnes représentent on va dire le club ici à Montpellier ?
Le club de Montpellier représente 25 personnes.
Qui voilà. Sont toutes actives ou actives ? Est-ce que vous avez des hommes ?
Non, il n'y a pas d'hommes. Bon, ben, on les refuserait pas si.
C'est pas interdit.
Mais c'est surtout un club féminin, voilà. Surtout un club féminin, des femmes qui sont engagées professionnellement et voilà. Et il y a tout corps de métier. Hein. Il y a des artisans, il y a des médecins, il y a des avocates. Hein. Voilà.
Est-ce que vous êtes en recherche de nouveaux adhérents sur des domaines particuliers ? Est-ce que je sais pas si vous avez un appel à faire pour le Zonta Club Marie de Montpellier ?
Bien entendu, je vous en remercie. D'ailleurs, enfin, cette action du 16 novembre, j'espère qu'elle nous amènera en même temps de la visibilité, parce que plus nous sommes nombreuses et plus nos actions seront fortes. Hein. Et justement, s'il y a une diversité dans les profils des ontiennes, pour nous, c'est une force supplémentaire. Donc, quelle que soit la profession, bien entendu, toutes les femmes sont acceptées. Elles se présentent à nous, elles font connaissance avec nous et bon, on entre par cooptation, mais toutes les bonnes volontés sont bien entendu recherchées.
Très bien, je rappelle que les personnes qui sont intéressées pourront vous rencontrer donc ce samedi 16 novembre, c'est à 11h sur la place de la Comédie, avec l'intervention d'Hélène Mandrou pour libérer donc les trois grâces qui seront du coup symboliquement enchaînées avec des rubans orange. Et puis on vous remercie d'être venu dans les studios de Divergence pour ce témoignage.
Merci à vous et je vous attends tous très nombreux.
Merci beaucoup. Tony Allen n'est pas une femme, mais il les chante.
Yeah. You know what? I just want to tell you something about, you know, the relationship about, you know, man and woman, you know. Dodgy game, man. You see, you need a lot of endurance, patience, everything, you know. You have to put everything into this affair to make your own head work fine. And when you work it out fine, everything's gonna be cool for you. Check it out, man.
Some people don't like me, say I'm too cultural. Guess I'm supposed to crawl, guess I'm supposed to fall. No, poke you all, and I hope you all understand. If the dam breaks, I'll soak you all. Create my own category for free that you need to see, frequently. I'm living in my own world secretly. It seems like only music can speak to me. I'm deaf to the brand name and fame. It's nothing but a code name, gold chain. I faced it, wore it like a bracelet. My face lit when I heard Tony Allen. Unclipped my helmet, jumped off the spaceship. Intrigued by the strange fruit, I tasted. Mama never told me to waste shit. Bitter to the taste, so I quickly replace it. I detect movement and stay stiff. Who goes there? Speak up or get a facelift. And from the moment she appeared, nothing was the same again. Nope. We've only got words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man to man. Words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man. We've only got words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man.
hustle, man to man hustle. Where's the hustle? We hand to hand hustle, man to man hustle, man.
Ah, ça fait mal au cœur d'interrompre, mais on a du pain sur la planche. Et on va tout de suite retrouver un entretien avec Valérie Tranco, auteur de « Entreprise et handicap, enjeux, mode d'emploi, bonne pratique », un livre sorti il y a à peu près un an qu'elle avait co-écrit avec Sylvie Liberti. Dans la semaine pour l'emploi des personnes handicapées se déroulant du 18 au 24 novembre, eh bien, c'était tout à fait le moment de rappeler l'existence de ce livre qui reste carrément d'actualité. Nous sommes à présent au téléphone avec Valérie Tran, co-auteur de « Entreprise et handicap, enjeux, mode d'emploi, bonne pratique », un ouvrage sorti il y a un an, presque jour pour jour, aux éditions Erol. Alors si on en parle, c'est que du 18 au 24 novembre a lieu la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, un événement national, majeur sur le sujet du handicap. L'occasion de rappeler cette parution qui était sortie donc il y a un an, qui proposait, on va dire, un mode d'emploi de bonnes pratiques, les enjeux de l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Vous avez co-signé cet ouvrage avec Sylvie Liberti. On va fêter dans un an la loi de 2005 qui portait sur le handicap, qui notamment certifiait que tout le monde allait se conformer en termes d'accessibilité aux bâtiments publics. Force est de constater qu'au fil des initiatives citoyennes visant à cartographier les endroits accessibles, notamment à Montpellier, c'est toujours pas le cas forcément partout. Première question, est-ce que cette publication, il y a un an, est-ce qu'elle s'est bien vendue? À savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont acheté pour savoir de quoi il retournait?
Alors, est-ce que ça s'est bien vendu? Je ne saurais pas répondre. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 1000 exemplaires vendus depuis novembre l'année dernière. Mais je n'ai pas de point de comparaison. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 1000 personnes qui ont acheté le livre, ce qui est plutôt, je trouve ça assez satisfaisant. Je ne peux pas savoir si ce sont des entreprises ou des étudiants ou des associations, mais voilà, on a sorti 1000 exemplaires.
Il faut préciser que cet ouvrage, vous l'avez écrit donc, comme je le disais tout à l'heure, avec Sylvie Liberti, qui est diplômée en psychologie sociale, qui a fondé Ariane Conseil en 1990, persuadée que l'insertion des personnes handicapées était un enjeu majeur pour les entreprises. Dès 1993, vous êtes intervenu en entreprise en tant que consultante associée à Ariane Conseil pour mettre en place des politiques handicap. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises, depuis un an, mais plus largement depuis 10 ans, ont compris les enjeux, l'intérêt, la logique qu'il y a derrière tout ça?
Alors, je vais d'abord préciser que l'obligation d'emploi ne remonte pas à 2005. Les 6% d'emploi de personnes handicapées demandées aux entreprises remontent à 1987 et non pas 2005.
Tout à fait.
Donc, dès 87, il y a eu des entreprises qui se sont penchées sur l'emploi de personnes handicapées. En revanche, c'est ce qui explique aussi que dès le début des années 90, j'ai commencé personnellement à travailler sur la question. Après, la loi handicap de 2005, donc celle du 11 février 2005, a relancé le sujet, a remis le sujet de l'emploi de personnes handicapées au goût du jour. Et c'est aussi pour cette raison que les entreprises se sont repenchées sur la question. Mais encore une fois, l'obligation, elle date de 87.
Mmh. Une obligation qui, quand elle n'est pas satisfaite, oblige les entrepreneurs qui n'ont pas satisfait, on va dire, à cette directive, à reverser de l'argent à la GFIP, en 2005, en tout cas, était épinglé par la Cour des comptes pour thésaurisation. Donc, il semble bien qu'en France, ce soit délicat de faire comprendre aux entreprises qu'une personne handicapée, c'est pas forcément une personne incapable.
Les choses ont bien évolué depuis 1987, parce qu'on a quand même des entreprises qui se sont penchées sur la question. Je vais parler par exemple des grands groupes. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes sont engagés dans une politique d'emploi en faveur des personnes handicapées. Donc la forme de l'engagement, ça peut être de signer par exemple un accord en faveur des personnes handicapées, ça peut être de conclure une convention avec la GFIP. Donc il y a quand même tout un courant Certes, il reste encore une marge de progression, mais aujourd'hui, le taux d'emploi de personnes handicapées dans les entreprises, il est de 2,7% hein, par rapport aux 6% requis par les textes, donc c'est clair qu'il reste une marge de progrès. Mmh. Et pour comparer à la fonction publique est plutôt sur un taux d'emploi de l'ordre de 4%, avec, je le précise, des modalités de décompte qui sont un peu différentes.
Que ce soit 2% ou 4%, il reste quand même des marges de progression importantes.
Bien sûr, bien sûr. C'est, je vous disais, les choses ont progressé depuis 1987, les choses ont progressé depuis 2005. Néanmoins, il reste une marge de manœuvre, une marge de progression plutôt.
Il faut peut-être bien faire un distinguo. C'est vrai qu'il y a des centres d'adaptation par le travail qui ont été rebaptisés depuis et qui, pour les personnes les plus lourdement handicapées, permettent d'avoir une activité. Nonobstant, il faut peut-être un petit peu dédramatiser l'histoire. C'est-à-dire que des personnes qui ont la reconnaissance de travailleurs adultes handicapés, il y en a beaucoup en France qui ne sont pas nécessairement ni non-voyantes, ni en fauteuil roulant, etc. Donc, il y a peut-être aussi des stéréotypes sur le handicap qu'il faut nuancer, étant donné que des maladies de longue durée peuvent donner lieu à la reconnaissance de travailleurs à lutte handicapés, etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose que le public n'a pas forcément présent à l'esprit.
Oui, alors il y a beaucoup de communication là-dessus. Par exemple, pour prendre l'exemple du fauteuil roulant que vous mentionnez, hein, contrairement à ce que l'on peut imaginer, il n'y a que 2 à 3% de la population handicapée française qui est en fauteuil roulant. Donc c'est bien moins que ce qu'on peut imaginer, puisque le fauteuil roulant ou la canne blanche, c'est, dans les représentations collectives, ça reste encore une image assez forte. Donc effectivement, il y a des problèmes d'image. Par ailleurs, en fait, quand on parle d'emploi de personnes handicapées, on parle de personnes qui ont un statut, donc qui ont la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, hein, donc qui est délivrée par la maison départementale du handicap. Donc c'est un statut administratif et la loi handicap 2005 donne une définition du handicap et met l'accent en fait sur la situation de handicap, c'est-à-dire qu'une personne va être en situation de handicap par rapport à un environnement donné et elle va être pénalisée dans sa vie, dans la société. En gros, hein, c'est l'idée. Donc effectivement, quand on parle de personnes handicapées, on ne peut pas, il serait faux d'imaginer qu'on parle de personnes exclusivement en fauteuil roulant ou de personnes atteintes d'un handicap lourd. Et c'est vrai qu'il y a encore un gros travail de représentation à faire, tant en entreprise qu'auprès du grand public.
Un travail que cet ouvrage a eu a participé à mener. Est-ce que parmi les éventuels lecteurs des 1000 ouvrages qui ont été vendus, est-ce que vous avez eu des retours d'entrepreneurs qui vous ont contacté pour des informations complémentaires ?
Directement, non, en fait. Quand on a écrit ce livre, on avait déjà une bonne notoriété sur le sujet et le livre est illustré par de nombreux témoignages d'entreprises ou d'experts. On a une trentaine de témoignages et son objectif, l'objectif du livre, c'était de convaincre et d'accompagner, enfin de donner aux entreprises qui souhaitaient s'engager de premiers repères. Enfin, c'était l'idée de leur donner un fil conducteur pour qu'ils s'engagent. Après, on n'a pas reçu d'appel d'une entreprise nous disant « voilà, j'ai lu le livre, j'aimerais mettre en place une politique handicap, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Hein.
Il reste encore beaucoup à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui aux entreprises qui ne se sont pas encore forcément posé la question ou qui n'ont pas eu l'heure de lire l'ouvrage ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui en 2013 ?
Alors en 2013, aujourd'hui, je leur dirais que bien sûr, il y a l'obligation d'emploi des 6% qui remonte à 2005 ou de 87. Il y a cet aspect, on va dire, cet enjeu légal et financier, mais que l'enjeu est bien plus large que cela, puisqu'en fait, l'idée de qu'est-ce qui peut inciter une entreprise à se pencher sur l'emploi de personnes handicapées, il y a d'autres enjeux que l'aspect légal et financier. Hein. Il y a un enjeu de ressources humaines, il y a un enjeu d'image d'entreprise, image et de marque employeur, où finalement, il est de plus en plus nécessaire, important, de se préoccuper de sujets de ce type, donc des sujets qui vont relever plutôt de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le handicap en fait partie. Le handicap entre aussi dans les politiques de diversité qui sont la politique de diversité, c'est aussi un sujet fort dans les entreprises. Donc il y a beaucoup d'autres raisons que en dehors de l'aspect légal et financier qui doit inciter les entreprises à s'engager. Je pense que par rapport à l'objectif, on est encore dans la plaque. C'est-à-dire, encore une fois, ce livre, il a été écrit pour donner de premières pistes de réflexion et d'action à une entreprise qui se pose la question du handicap. Donc ça, on est encore dans cet objectif-là. C'est clair qu'aujourd'hui, si j'avais à réécrire le livre, il y a des choses, des points que je modifierais, en particulier tout ce qui est sur le maintien dans l'emploi. Mmh. On a beaucoup parlé de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Il me paraît très important aujourd'hui d'ajouter d'autres éléments au regard de la réforme des retraites et l'allongement de la vie professionnelle. Et d'ajouter également des éléments sur les passerelles qui peuvent être faites entre le maintien dans l'emploi de personnes handicapées et les politiques de santé au travail, c'est-à-dire tout ce qui va être prévention des risques, préservation de la santé des collaborateurs au travail. Donc j'entends par là les obligations et ce qui peut se faire dans les entreprises aujourd'hui en matière de pénibilité, sur les troubles musculo-squelettiques par exemple.
Oui, des troubles qui sont liés à des positions de travail un petit peu répétitives et traumatisantes.
Oui, tout ce qui est pénibilité, effectivement. Donc, soit lié à des postures, soit lié à des organisations d'entreprise également. Quand on parle de santé au travail, bien sûr, il y a les postures des collaborateurs, mais en fait, ces postures, elles sont générées par une organisation et par du matériel. Donc, l'entreprise a une part, je ne dirais pas de responsabilité, mais en tout cas, elle a un champ d'action qui est important. Quand vous travaillez sur le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée, vous réfléchissez aux conditions de travail et finalement, vous donnez de la matière pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Mmh. Et ça, c'est intéressant.
Est-ce que finalement, les personnes en situation de handicap en France qui sont employées ont les mêmes chances selon la structure dans laquelle elles le sont ?
Bah, en fait, moi, mon périmètre, ça va être essentiellement, le périmètre que je connais va être essentiellement le périmètre des entreprises, puisqu'en fait, nos clients sont des entreprises privées. Après, sur l'égalité de traitement d'une entreprise à l'autre, non, tout dépend de l'entreprise, de la façon dont elle est structurée, est-ce qu'elle a une politique handicap ou pas, chaque cas est particulier, si vous voulez.
Au niveau des directives qui ont été ou des lois qui ont été mises en place par les gouvernements, parce que là on est sur une échelle de 10 ans, donc ça recouvre plusieurs quinquennats, est-ce que vous pensez que l'appareil législatif incitatif est suffisant ou est-ce que du côté du législateur il y a encore beaucoup d'efforts à faire ?
Le dispositif est très important. Il y a l'obligation d'emploi, il y a tout le dispositif, AGFIP, FIP, HFP, donc le dispositif est là. Il me semble qu'il est un peu complexe et un peu pléthorique pour une entreprise qui commence sur le sujet.
Mmh. Ouais, quand je faisais référence à l'année 2005 où la GFIP avait été épinglée par la Cour des comptes, ça pose quand même justement la question de savoir que quand les entreprises préfèrent payer l'amende entre guillemets et alimenter les caisses de la GFIP à défaut d'avoir les 6% de personnes employées, est-ce que finalement tous les dispositifs sont suffisamment efficaces pour éviter ce qui s'est passé en 2005, à savoir que la GFIP se fasse épingler pour thésaurisation?
Alors, moi, je veux encore parler côté entreprise. Je veux dire, côté entreprise, pendant longtemps, effectivement, jusqu'en 2005, justement, il y avait beaucoup d'entreprises qui préféraient payer la contribution et finalement qui identifiaient la contribution à la GFIP comme une espèce d'impôt. Un impôt qu'on n'aurait pas pu, auquel on ne peut pas échapper. Bon, justement, avec la loi handicap 2005, les entreprises ont pris conscience que c'était une contribution sur laquelle on pouvait agir. Et ça, c'est un des mérites de la loi handicap 2005. Je pense que c'est une bonne. Enfin, cette loi, elle a permis vraiment aux entreprises de prendre conscience qu'on pouvait agir et également. Ça a amené les entreprises à se réinterroger sur leur image du handicap, justement. Se dire qu'une personne handicapée, ce n'est pas synonyme d'incapacité à travailler, ça, cette réflexion-là, elle a été amenée aussi par l'obligation d'emploi de 2005.
Vous pensez qu'il y a une prise de conscience petit à petit dans le tissu entrepreneurial que quand on parle d'une personne en situation de handicap, c'est parce qu'elle est reconnue, etc. Mais finalement, cette question-là touche finalement à la qualité de vie au travail. Et ça s'applique à tout le monde, qu'on soit ou pas en situation de handicap.
Oui, je pense que cette réflexion-là arrive. Notamment, par exemple, si on parle des personnes qui sont atteintes d'une maladie invalidante, on commence à faire le lien entre le fait qu'une personne qui est atteinte d'une maladie entre dans la définition du handicap telle que la donnent les textes. Donc oui, il y a ce cheminement-là est en cours et c'est plutôt bien.
Alors, vous faites partie donc de Ariane Conseil, une structure qui a été fondée en 1990, suite à la persuasion de Sylvie Liberti, qui co-signait cet ouvrage avec vous, que l'insertion des personnes handicapées était un enjeu majeur pour les entreprises. Pendant cette semaine nationale de l'emploi des personnes en situation de handicap, est-ce que Ariane Conseil mène des actions particulières ?
En fait, c'est le cœur de notre métier, c'est-à-dire qu'on a 70% de notre activité qui consiste à accompagner les entreprises privées ou la fonction publique dans la mise en place de politiques d'emploi et d'accueil de personnes handicapées. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité. Hein. Précédemment, nous étions exclusivement sur ce champ. Maintenant, nous sommes à la fois sur le champ du handicap et le champ de la santé au travail.
Et du coup, vos rapports avec les pouvoirs publics, ils sont de quelle nature ? Vous participez à des questions de parlementaires ? Comment ça se passe ?
Nous sommes surtout tournés vers nos clients, privés ou publics. Nos relations, on va dire, avec les institutionnels que sont la GFIP ou le FIPHFP, c'est au travers de nos clients. C'est-à-dire que nos clients mettent en place des politiques d'emploi de personnes handicapées et pour ce faire, ils se tournent pour obtenir des aides, notamment financières, de la GFIP, par exemple.
Les conclusions que vous pouvez éventuellement tirer de votre champ d'expertise, est-ce que vous les retransmettez aux parlementaires quand il y a des lois qui sont sur le grill et qui concernent directement ces thématiques ?
Il est arrivé qu'on soit consulté, qu'on soit interrogé, par exemple, dans le cadre d'un travail mené par l'AFNOR sur la question du handicap. Par les pouvoirs publics, non, nous n'avons jamais été sollicités.
Bien, souhaitons que vous le soyez à l'avenir.
Absolument.
Valérie Tran, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je rappelle que l'ouvrage Entreprise et handicap, enjeux, mode d'emploi, bonne pratique est toujours, j'imagine, disponible aux éditions Erol.
Oh, il y a encore du stock et il n'a jamais qu'un an. Puis comme je vous le disais, il est encore tout à fait actuel et il répond encore complètement à l'objectif que l'on s'était fixé.
Voilà, c'est tout ça dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, un événement qui se déroule du 18 au 24 novembre 2013. Donc à tous les entrepreneurs qui écoutent Divergence FM, et je ne doute pas qu'ils soient très nombreux, eh bien je ne saurais les encourager trop à se procurer cet ouvrage et à en lire le texte et en retenir la substantifique moelle. Valérie Tran, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Ludovic Deleu ne sera pas avec nous dans les murs, mais des leitmotivs numéro 47, il y en a encore partout, ici à Divergence et à Montpellier. Trois photographes en façade et en intérieur, des attes, des halles, du mialm, du mrac, des 34 tours, des clics et des cracks, de la musique, des envies, des retours, des machines et du machin, de l'art, du goût, des choses et d'autres, du ciné, du sensé, du dehors et du dedans, du bruit et du silence, du demain, du hier et du présent surtout, de l'arrêt, du coton, à lire et surtout à voir. Vous pouvez retrouver le PDF en lecture en ligne sur le site de divergence-fm.org. À présent, c'est Gaspard Bébier-Valérian qui est avec nous. Bonjour Gaspard.
Bonjour Gilles.
Alors on est là pour parler de Oudaïs, dont on peut rappeler que vous êtes au Vigan et que vous travaillez autour des arts numériques sous toutes leurs formes. On est là pour parler de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Alors ce qui s'est passé, ça sort maintenant sous l'aspect d'un catalogue, en vrai papier d'arbre, autour de Silence Vert, c'est on va dire les actes.
Oui, c'est la compilation en fait de tout ce qui a été produit durant ces précédentes rencontres. Donc il y a un ensemble d'interviews, il y a également la retranscription d'une table ronde, il y a également des traductions d'essais. Tout ça, ça a été rassemblé, c'est plus qu'un catalogue pour nous, c'est vraiment une façon de prolonger la réflexion qu'on a engagée et qu'on engage dans notre travail.
Alors un format intermédiaire, 100 pages, c'est pas rien, ça a pris un certain temps j'imagine à pour ce qui est de retranscription, ça prend toujours un temps certain, et puis à tout ça à mettre en forme. L'idée c'est de matérialiser dans du papier finalement la mémoire des choses numériques.
Bah, effectivement, il y a quand même ce rapport à l'objet éditorial qui perdure dans notre démarche, même si on est inscrit dans le champ des arts numériques et donc on pourrait spontanément penser qu'on s'oriente plus vers des médias virtuels comme l'Internet. Enfin, c'est pas incompatible pour nous. C'est surtout pour nous vraiment l'occasion de prolonger la réflexion, de la garder un petit peu plus préhensible parce qu'effectivement, on se rend compte que l'air de rien, le papier, comme on l'a dit, ça reste dans les bibliothèques. Ça peut aussi être considéré comme un fétiche. On n'est pas forcément dans cette vision-là. Mais à un moment, c'est aussi l'occasion de prendre le temps, le recul pour nous de réfléchir, d'avoir un moment de la distance. Et du coup, l'acte, justement, qu'est le catalogue, permet de répondre à cette problématique.
Mmh. Catalogue qui a vocation à être diffusé, distribué, mis en vente.
Oui, il est diffusé, distribué, effectivement. On le vend, hein, on le distribue aussi également à tous nos partenaires. Et puis, il y a quand même un ensemble aussi de... La totalité du catalogue est quand même lisible aussi en ligne librement. Et puis, il y a aussi des interviews qui sont mises sur différents sites de partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on essaie quand même de le rendre public le plus possible.
Alors, qu'est-ce qui aura marqué j'imagine que tout n'a pas forcément été retenu, si ?
Ah, on a essayé d'être relativement exhaustif. C'est surtout un moment, l'occasion pour nous de questionner finalement la relation entre les arts numériques et puis les questions énergétiques, environnementales. C'était la thématique de l'année dernière avec Silence Vert. Donc quand même, il y a du travail. Je pense qu'on est loin d'avoir abordé la totalité de cette problématique, mais on a essayé quand même d'être relativement exhaustif, justement pour permettre d'ouvrir d'autres portes et puis éventuellement ouvrir après à de nouvelles modalités ou coopérations, des nouvelles tables rondes et des échanges. C'est aussi ça qui me semble intéressant, c'est de créer des espaces d'échange et de débat avec les artistes, mais pas seulement, aussi des théoriciens, puis les publics. C'est extrêmement important, cette dimension publique dans notre travail.
Le public qui est fidèle à tous les rendez-vous que vous leur donnez ?
On essaye. C'est toujours un travail de longue haleine, hein, puisque étonnamment, sur les centres urbains, ça semble aujourd'hui de plus en plus courant, finalement, de parler de culture numérique. En l'occurrence aussi, lorsqu'on voit que ça s'est beaucoup associé avec le champ des musiques actuelles, beaucoup de salles de concert ou de SMAC aujourd'hui ont aussi une programmation orientée art numérique. C'est vrai que nous, on assume beaucoup plus un parti pris, on va dire, art contemporain. En tout cas, on élabore des commissariats, des expositions avec une réflexion, une thématique. On essaie de travailler sur des scénographies spécifiques. Et vraiment, à ce moment-là, effectivement, le travail des publics, il est peut-être un petit peu plus complexe, d'autant plus qu'on est sur un territoire rural ou semi-rural. Donc, il y a toujours ce travail d'accompagnement qui se fait. Mais en soi, je n'ai pas à me plaindre, justement, de nos publics. C'est aussi pour ça qu'on fait ce travail-là. Je trouve que les gens réagissent. Ils ont effectivement de la suite dans les idées. Et en un sens, ce qui m'importe, c'est moins ce qu'ils soient fidèles, mais plus que chez eux, ça ouvre des espaces critiques de pensée. C'est ça vraiment qui m'importe, c'est que des gens qui, il y a 5 ans, lorsqu'ils ont assisté à nos premières expos, ils n'étaient pas du tout initiés ou sensibilisés à ces questions. Et aujourd'hui, ils commencent à constituer leur goût. Ils commencent aussi à avoir une forme de vision un petit peu plus globale et du coup à se positionner dans ce parcours qu'on établit depuis plusieurs années. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment ils s'autonomisent dans tout ce qu'on offre.
Alors ce qui est intéressant aussi dans ce que vous programmez, c'est que souvent à travers l'utilisation, enfin à travers le choix des matériaux que les artistes utilisent pour une finalité qui peut être esthétique, ludique, peu importe, finalement c'est souvent des questions comme tu le disais, énergétiques ou environnementales qui se posent, voire même des questions de société, puisque beaucoup des gens qui viennent dans ta programmation, dans votre programmation, car tu n'es pas tout seul, ont aussi dans leur démarche le côté open utilisation de matériel libre ou de logiciel ou de licence libre dans leur travail, etc. Et là, c'est un questionnement directement sociétal qui se pose.
Ouais, complètement. C'est vrai que ceux qui me connaissent ont le sentiment que je me répète, mais je crois que c'est nécessaire de justement le répéter. C'est qu'en fait, travailler avec les nouvelles technologies, c'est pas anodin, c'est pas neutre. En soi, il y a derrière des enjeux économiques, des enjeux politiques. Concrètement, derrière l'ordinateur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la matière, il y a de l'énergie, il y a aussi des canaux. Et tout ça, en fait, il y a aussi des enjeux de contrôle. Donc à un moment, un artiste, c'est aussi un contracteur, je dirais. C'est un contracteur culturel, sociétal. C'est quelqu'un qui, à un moment, vraiment introduit du débat, qui essaye d'avoir un regard et aussi une vision différente, puis aussi de la soumettre à une espèce d'audience plus vaste, pas forcément pour la rendre publique comme une vérité absolue, mais en tout cas pour... un moment diverger, justement. Et ça me semble extrêmement important, justement, de continuer à aider, à soutenir et à rendre visibles des formes de production qui ne sont pas une forme d'apologie des nouvelles technologies, mais beaucoup plus dans une appropriation et aussi dans une transformation de ces technologies, justement pour un moment signifier à quel point on est entouré par ces technologies, certes, mais il y a nécessité de les conserver toujours à notre disposition pour les rendre plus populaires, plus équitables, plus démocratiques. Ça me semble absolument essentiel.
Alors, il y a aussi un point d'actualité intéressant, c'est le projet Audiotact qui nous touche particulièrement ici à Divergence, puisqu'on passe pas mal de musique libre et on avait été attentif à ce qui s'était passé autour des bornes de musique libre automasique, etc. Du coup, vous êtes sur un projet similaire de faire des bornes d'écoute de musique en libre diffusion. C'est un projet qui en est où pour l'instant?
Bah, en fait, c'est plus vraiment un projet, c'est carrément une réalisation qui est aujourd'hui aboutie. C'est un gros dossier là, que tu soulèves. Ça fait depuis plus de 3 ans sur lequel on travaille. C'était en 2009, on avait sur le Vigan participé à la fête du libre. Et à cette occasion, on avait fait une borne assez rudimentaire avec VLC, un certain nombre de logiciels libres et un petit fond discographique. Et en fait, il y a eu une convergence avec le Carré d'Art à Nîmes, le pôle médiathèque, qui aujourd'hui s'appelle le Labo Carré, où on a eu la convergence justement de créer une borne audio-tactile, donc sur écran tactile, et dédiée à la musique libre, et d'aller beaucoup plus loin de ce qu'on avait fait initialement avec ce prototype. Et en fait, pendant 3 ans, je pense qu'au départ, on n'a pas évalué finalement la masse de travail que ça pouvait représenter. On a travaillé sur ce projet, donc il y a eu tout un travail de développement, d'ingénierie, qui a été réalisé notamment par Julia Delcambre et Gaël Alonso. Il y a eu tout un travail d'ergonomie et de design graphique qui a été conçu par Nicolas Claveau. Et puis, bah, ODI, ça s'est vraiment mouillé et retroussé les manches avec le Labo Carré et Alexandre Simonet pour aboutir ce projet. Donc là, en fait, d'ici moins d'un mois, les sources seront rendues publiques. Il y a un projet qui est fonctionnel, qui tourne du coup sur système libre et qui est complètement aussi dévolu à la promotion des musiques libres, qui peut aussi évoluer, notamment en intégrant tout ce qui est podcast ou système aussi de diffusion vidéo. Mais nous, on a vraiment décidé de le restreindre d'abord à la musique libre et après, effectivement, si une communauté veut s'en saisir et le développer justement pour d'autres usages, c'est complètement ouvert. C'est un petit peu ce qu'on reprochait à l'époque avec Automasic, avec ses bornes développées par Dogmasic. Après, on comprend aussi leur position. Mais c'était un petit peu ce paradoxe de vouloir finalement sensibiliser et promouvoir la culture libre et en même temps, lorsqu'ils conçoivent une borne, de ne pas la rendre disponible ou de ne pas libérer le code. Donc nous, c'était une forme de paradoxe et surtout, on ne voulait pas non plus restreindre ça à un catalogue unique. On voulait vraiment que la borne devienne un outil au bénéfice de chacune des structures. Donc que ce soit une radio, que ce soit une SMAC, que ce soit une ASSO, que ce soit une MJC, que chacun finalement définisse son catalogue, son esthétique et puis à un moment s'approprier l'outil pour en faire vraiment un outil de promotion et de partage. C'était essentiel. Donc Audiotact, c'est vraiment ça, la culture et la philosophie qui a gouverné la création et le suivi de ce projet.
On retrouve, j'imagine, toutes les infos sur Audiotact sur oudaïs.fr. Oui. Quel autre rendez-vous avant de se quitter?
En fait, on attaque le gros morceau de l'année. Hein. On a l'occasion de se voir un petit peu comme les transhumances. Mais là, en fait, on attaque les prochaines rencontres. Donc, cette année, on a été sur une nouvelle problématique qui était la question du territoire et des satellisations. Donc, les rencontres des arts numériques, électroniques et médiatiques, cette année, s'appelle Now Here ou Nowhere. C'est un jeu de mots, justement, sur l'ici et ailleurs ou nulle part, et puis un peu partout. Et en fait, on travaille non seulement sur Bagnoles sur 16, sur Montpellier, notamment avec un rendez-vous, donc j'insiste un peu sur Montpellier, effectivement, pour l'auditoire de Divergence, avec une soirée le jeudi 28 novembre à la Baignoire, à Montpellier, donc, avec une soirée faite de plusieurs performances, notamment avec Pascal Gustin, avec Extrasystole, Ayato, Red Alert, donc performances visuelles, performances aussi sonores. Donc ça, c'est dans le cadre de ce programme. Et puis évidemment, il y a un ensemble d'expositions également au Vigan. Il y a 2 expositions, plus des ateliers et puis aussi tout un travail de sensibilisation, de rencontres et de réflexion comme ce qu'on a engagé sur les précédentes rencontres. C'est présenté de façon très succincte, mais en réalité, toutes les informations sont disponibles sur le site évidemment d'Oudéis. Et effectivement, de la même façon que sur Silence Vert, on développait une problématique qui était l'art et les nouvelles technologies et l'environnement et les questions énergétiques et l'écologie. Là, on est beaucoup plus sur la question d'à un moment décloisonner le virtuel, le réel, comment tout ça se cohabite et comment d'un territoire à l'autre, les choses, elles circulent.
Gaspard, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Divergence.
Merci,
on te souhaite toute bonne continuation. On aura peut-être l'occasion de revenir dans une Divergence numérique, pourquoi pas, sur justement toutes cette histoire de bornes de musique en libre diffusion. Vu que ça, c'est un petit peu aussi notre cheval de bataille, on te souhaite tout bon d'ici là. Oudaïs.fr. Et pour l'heure, eh bien, on va terminer cette auberge espagnole avec du rock'n'roll. Ça se passe ce soir au Rockstar. Salut.
Merci.
du rock'n'roll dans l'auberge espagnole ce 12 novembre sur la scène du Rockstore à Montpellier. Ce sont les Burning Jacks qui vont bien vous faire bouger vos petites fesses. Et on est au téléphone avec deux des membres fondateurs de ce groupe. J'ai nommé Sid et Karl. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Alors, ce qu'on trouve sur Internet, c'est le sempiternel communiqué de presse qui est plutôt savoureux et qui nous apprend, entre autres choses, que considérant d'être beau, sexy, intelligent et dépravé ne vous suffisait pas, il vous fallait une raison d'être. Vous vous armèrent donc d'instruments bruyants afin d'hurler votre soif de vivre dans un torrent d'enivrants décibels. Mais au-delà de ça, on a du mal à trouver un petit peu l'histoire de ce groupe dont sur Internet on trouve des posts qui datent de 2009. Alors, première question, 2009 serait-elle l'année de création des Burning Jacks?
Alors, c'est une des théories effectivement qui est privilégiée par les historiens. Il y a une école qui dit l'inverse, mais il semblerait que ce soit bien en 2009 que tout ait commencé. Peut-être plutôt fin 2008.
Fin 2008, où et quand et comment?
Alors, tout a commencé autour d'une pinte, en fait. Donc là, c'est Sid qui parle. Moi, voilà. Et avec Antoine et Félix, on s'est retrouvés dans un bar où il y avait des open mics, c'est-à-dire c'est une espèce de scène ouverte où chacun vient chanter ce qu'il a envie de chanter. Donc s'il chante bien, il est applaudi et donc il peut continuer. Et s'il chante mal, il se fait dégager. Et c'est un principe qui nous a beaucoup plu. Et donc du coup, on a commencé à faire des répètes ensemble pour... on avait envie de faire un groupe. Et c'est ainsi que le groupe s'est créé autour de d'abord un répertoire Phillies, mais pas vraiment dans une ambiance puriste, rock-up, gominé et tout ça, même si j'aime beaucoup ça. Mais vraiment plus dans un délire de se réapproprier tout ce répertoire Phillies et d'en faire quelque chose un peu à notre sauce. Parce qu'on estime que c'est la musique par excellence qui fait danser les gens et qui du coup crée une espèce d'euphorie, le sentiment auquel on voulait arriver. Mais voilà.
Alors l'euphorie, on la voit bien dans le clip qui tourne sur Internet en ce moment, où effectivement la grande tradition de sex, drugs and rock and roll. Alors est-ce que c'est un mode de vie, un hommage à une légende, un peu des deux ou aucun des deux?
Alors nous, on n'a rien à voir avec tout ça, hein. Effectivement, c'est vraiment un clin d'œil très très distant. Nous, on n'aime pas le sexe et on tient à le faire savoir. Donc on s'est dit que ça, voilà, comme il y a
on
plein de gens.
En fait.
Exactement.
Une technique commerciale.
Comme il y a plein de gens qui s'appelaient, on s'est dit finalement pourquoi pas souscrire à cette esthétique-là.
Ouais, alors soit dit en passant, les traces que vous avez laissées sur les différents concerts que vous avez faits ont l'air quand même de témoigner d'une certaine authenticité en la matière.
C'était notre période bleue en fait.
Voilà. Non mais plus sérieusement, non effectivement, nous on, comment dire, l'idée c'est de faire un truc qui, en fait l'idée c'est de faire un truc en fait tout à fait premier degré, c'est-à-dire que nous ce qu'on n'aime pas c'est les concerts où les gens regardent les bras croisés et ils comptent les points quoi. Nous ce qu'on aime c'est de faire réagir au maximum. Donc du coup ce qu'on fait c'est quand même plutôt assez vivant. En fait ça relève plus de la performance que vraiment du concert où en fait on est là pour reproduire ce qui se passe sur un disque. Là en fait on est là pour montrer qui on est quoi. Mmh. Et du coup ça, on aime bien se lâcher sur scène et faire en sorte que les gens qui sont là soient emportés dans le torrent.
Ouais, c'est ce qui transparaît dans les témoignages où on qualifie les concerts de sexy, ce qui n'est pas toujours le cas des concerts, et puis de très énergisant, etc. Alors ce soir sur la scène du Rockstore, les Montpelliérains vont pouvoir s'en faire une petite idée, mais ils n'auront pas été les seuls, puisque vous avez, malgré le fait que le groupe soit finalement assez jeune, vous avez quand même écumé une partie des capitales européennes, si je ne m'abuse.
Oui, alors, tout à fait. Par nos propres moyens, on est allé à Berlin et à Londres un peu à l'aventure. Et ça a été l'occasion de découvrir de... Voilà. en fait, l'ambiance, parce que nous on vient des quartiers périphériques de Babylone, de Paris.
Oui.
Donc l'ambiance ici est assez particulière et je pense que ailleurs, ça bouge aussi... différemment, les gens ont une manière beaucoup plus simple de réagir au rock et donc plus intéressante pour nous, particulièrement à Berlin. Le public a vraiment bien bien joué le jeu et ça avait cartonné pour nous là-bas. Londres aussi, c'était très cool. Mais même en dehors de ça, on a adoré jouer dans d'autres villes en France, puisqu'on a déjà joué à Nancy, à Amiens et à Bordeaux avec Maneskin hier soir. Donc du coup, voilà, on est très content de sortir un peu de notre trou, malgré tout, parce que nous, ce qu'on veut, c'est conquérir le monde avec ce qu'on fait. Donc voilà l'idée, et on sera ravis de montrer ça au public de Montpellier.
Voilà, alors est-ce que y a pas vraiment de site internet burningjacks.com pour l'instant, en tout cas? On peut trouver un petit peu des traces de votre passage sur différents sites internet, que ce soit sur votre Facebook ou encore sur reverbnation.com ou encore sur radicalproduction.fr. Comment vous entrevoyez le développement du groupe?
Alors, le Reverbnation est plus très très à jour. Hein,
effectivement.
En termes de... Alors, c'est sur les réseaux sociaux ou sur le développement plus à long terme?
Ouais, bah, sur le développement à long terme, un site propre, tout ce qui concerne, voilà, plutôt que d'être sur des plateformes de réseaux soi-disant sociaux.
Alors, oui, alors c'est l'objectif. En fait, on a un site en construction qui n'est pas encore prêt, mm-hmm. et qu'on sortira le jour J en grande trombe. Mais pour l'instant, en fait, nous, sur tout ce qu'on aime, enfin, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que ça nous permet d'entretenir le contact avec les gens qui découvrent notre musique,
True.
Notamment via Facebook. Et je trouve que c'est une approche un peu plus saine que l'artiste qui est là sur son piédestal et qui regarde la plèbe d'en haut, qui daigne venir à ses concerts. Et donc nous, on a fait, enfin, là à Paris, on a fait beaucoup de concerts depuis qu'on existe, on a fait une centaine. Et ce qui est vrai, c'est que du coup, les gens qui sont venus nous voir, assez vite, ont commencé à faire partie de notre entourage. Et du coup, ça fait partie vraiment de... Plus que dans un groupe, c'est vraiment toute une ambiance, une scène qu'on essaye de charrier avec nous, où que nous allions.
Voilà, pour que le spectacle dépasse l'aspect strictement musical de l'affaire.
Absolument, mais ce qui ne veut pas dire du tout qu'on néglige le... Exactement, on est au contraire... très fier de la musique qu'on fait. D'ailleurs, là, on sort de studio, on a enregistré 4 nouveaux titres qui seront bientôt disponibles. Et je l'espère sur Divergence. Mais voilà, en fait, ce qui est vrai, c'est que même si, quelle que soit la fierté qu'on a de notre musique, ce qu'on fait sur scène, elle est vraiment pour dépasser le simple contenu musical. Pour transcender vraiment.
Là, on est au téléphone, je le rappelle, avec Sid Alexander et Karl Makumba. Le groupe se constitue aussi de Antoine Richter, Félix Béguin et Jérémy Norris. J'imagine que tous ces patronymes sont quelque part empruntés, sont des pseudonymes.
Surtout Félix Béguin.
Ouais. Mais alors, en fait, l'idéal, c'est de retrouver l'intertextualité. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens nous envoient des courriers en faisant des suggestions de d'où nous viennent nos noms publics.
Oui.
Et ce qui arrive à trouver d'où vient Félix Béguin seront les grands gagnants du jeu concours Burningjacks, dont le prix n'est pas encore connu.
Parce que Karl Makumba, ça fait penser un petit peu aux années 80. Sid Alexander, je ne sais pas, soit c'est l'Antiquité avec Alexandre le Grand, ou je ne sais pas. Jérémy Norris, on se demande si Chuck n'est pas derrière. Et puis, bon, Antoine Richter, je ne sais pas. On a un quartier qui s'appelle Richter à Montpellier, donc ça fausse mon jugement. Effectivement, Félix Béguin, je ne sais pas.
Exactement.
Bon, ben, vous avez qu'à lancer le concours dès que votre site est en ligne et on se fera un plaisir d'en relayer Exactement. L'information. Tu disais que vous êtes en train d'enregistrer des titres, ça veut dire qu'il y a un album à prévoir?
Tout comme le site internet, l'album est en construction. Donc là, en fait, on fait des sessions de studio, on sort des singles, en fait, surtout, puisqu'on pense que c'est une méthode qui a marché auparavant. Donc l'idée, c'est de défendre des chansons plutôt que d'arriver tout de suite avec un album un peu à propos de rien. Nous, ce qu'on veut, c'est développer le groupe chanson après chanson. Ce qui veut pas dire que toutes nos chansons les sortir en single, hein, mais que l'album, du coup, on sortira vraisemblablement en 2014. Donc là, on a 4 titres, on va retourner en studio encore pour en enregistrer a priori 4 autres. Et du coup, à partir de ça, étape par étape, on construit ce qui va devenir un album. Et qu'on sortira, nous l'espérons, dans les meilleures conditions.
Et nous nous réjouissons que les Montpellierains puissent avoir la primeur de ce qui deviendra un album incessamment sous peu, ce mardi 12 novembre sur la scène de Le Rockstore à Montpellier. Donc vous allez faire partie de ceux qui inaugurent la rénovation totale de fond en comble. Donc on vous souhaite un excellent concert ce soir. Et merci pour ces quelques minutes au téléphone.
Merci, bah, on sera ravis de
d'enflammer la scène.
Exactement, et en plus c'est un plaisir de faire ça avec Miles Kane pour qui on ouvrira. Donc on sera vraiment là pour en découdre, et venez nombreux parce que ça va déchirer.
Merci, salut.
Merci à vous. Come on, time, I don't care.
Et c'est ainsi que se referme cette auberge espagnole. Gilles Gouget vous remercie. Il remercie Bruno Bertrand pour la réalisation technique. La semaine prochaine, on aura côté musique Mofo Party Plan. Salut.